Bonjour, bonjour, chers lecteurs. Semaine 13, déjà. Et vous aurez remarqué, je suis régulière cette fois-ci. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a regardé? On termine le challenge des Marvel cette semaine. Vous allez être contents ou pas, ça dépend. Alors, j'ai regardé Avengers Infinity War, Avengers Endgame, ensuite Framing Britney Spears, Pyongyang s'amuse, Nuit Blanche à Seattle, Deadpool 2 et On est les meilleurs. On est les Millers, pardon, pas les meilleurs. Alors, premier film, j'ai regardé du coup Avengers Infinity War. Alors, je vais parler des deux premiers ensemble, parce que ce sont les deux derniers du challenge Marvel, donc Infinity War et Endgame. Pourquoi est-ce que je parle d'eux ensemble? Parce qu'ils vont de pair, en fait. Endgame étant la suite de Infinity War. Donc, dans Infinity War, les Avengers, la tribu Wakanda, les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, ils se réunissent tous ensemble pour rechercher les pierres d'affinité qui sont un peu dispersées partout, mais il ne faut pas qu'elles tombent dans les mains du maître des pierres, je crois. Un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, en fait. Parce que sinon, lui, il veut détruire l'humanité s'il réunit toutes. Donc, ils vont se battre pour essayer que ça n'arrive pas, tout simplement. Je peux pas en dire plus parce que sinon vous allez être spoilé, mais voilà. Du coup, dans Endgame, ils vont dealer avec. Ils vont gérer les conséquences de ce qui s'est passé dans Infinity War et finir ce qui a été commencé. je peux pas vraiment en dire plus en fait, sinon vous allez avoir. Je vais donner des infos sur ce qui se passe et c'est pas marrant si vous avez vraiment envie de les regarder pour la première fois. Comment dire, Infinity War, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je trouve que l'histoire est assez compliquée à comprendre. Déjà par le nom des dieux, des personnages, voilà, les noms des personnages sont assez compliqués, je trouve, à retenir. Dans tous les Avengers et dans tous les Marvel en général, les noms sont pas les trucs les plus. Voilà, c'est pas Marie et Joseph, quoi. C'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à se rappeler qui s'appelle comment. Je veux dire, quand on appelle un personnage Gamora, en même temps, faut pas s'étonner que les gens retiennent pas, quoi. Hein. Alors, Endgame, par contre, c'est assez. Bon, vous savez très bien que j'aime pas spécialement les Avengers parce qu'ils sont tous réunis ensemble et que j'ai du mal à suivre parce qu'il y a énormément d'action en général. Et cela ne déroge pas à la tradition. Ouais. Mais Endgame, c'est assez bizarre parce que vu ce qui se passait. J'avais vraiment le sentiment que Endgame, c'était la fin d'une époque. C'est la fin du challenge. En tout cas, c'est le dernier film qui était dans mon challenge au moment où je l'ai commencé. C'était en 2021, ça. Donc, oui, j'ai regardé ces films-là en 2021. Donc maintenant, on est 2 ans plus tard. Évidemment, il y a d'autres films Marvel qui sont sortis. Aussi bien, je ne pense pas qu'il y ait des films Avengers. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'actu. Mais en tout cas, il y a eu des séries, des films. Notamment les Gardiens de la Galaxie 3 récemment. Et je pense aussi des séries, comme Loki et autres, mais je n'ai pas suivi parce que quand j'ai fait le challenge Marvel, c'était que les films, moi. Je me suis concentrée sur ça et pas les séries dérivées qui font avec. Après, voilà, si vous avez envie de vous tenter à l'univers Marvel et de les regarder dans l'ordre, vous avez dans la description, de toute façon, l'ordre dans lequel il faut les regarder. Enfin, il faut, c'est ce qui est conseillé pour comprendre les choses. Et si vous y prenez goût, sachez qu'il y a des séries, en fait, pour compléter tout ça. Donc voilà, moi c'est pas un univers auquel j'accroche beaucoup, mais en tout cas ceux qui aiment sont vachement gâtés. Ensuite, donc ce que je veux dire avec Endgame, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que ça allait être la fin de quelque chose, comme si on terminait tout l'univers Marvel dans ce film-là, et que la fin allait vraiment avoir des conséquences énormes. En fait, c'est vraiment comme si on terminait une saga, je sais pas pourquoi. Et pourtant, l'univers Marvel s'arrête pas à ce film-là, pourtant. Ou alors c'est moi qui ai mal compris, mais au moment où j'ai regardé, j'ai vraiment senti comme si on terminait quelque chose. C'est le cas, hein, parce qu'ils essayaient de terminer ce qu'ils avaient commencé dans le film précédent. Mais je sais pas, c'est comme si on. Enfin, vraiment, je sais pas si je suis la seule, mais dites-moi. Mais moi, j'ai eu l'impression en regardant ce film-là que, une fois qu'il se terminait, c'est comme s'il n'y avait plus jamais à avoir de film sur eux, sur les Avengers réunis ensemble. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, un personnage meurt à la fin. Je vais pas vous spoiler qui, mais voilà, soyez avertis. Je suis un peu dégoûtée, parce que c'est un personnage que j'aimais bien. Et j'en aimais même pas beaucoup, mais celui-là, j'aimais bien. Bref, que dire? Dois-je faire un bilan de ce challenge, si ce n'est que je suis contente qu'il soit terminé. Parce que même à l'époque, quand j'ai terminé, j'étais contente parce que ça fait quand même beaucoup de films. Et ça fait quand même beaucoup de films, quand tu n'accroches pas, ça devient long en fait. Et tandis que quand t'accroches bien, tu te dis c'est jamais assez. Et moi, j'accroche pas trop à l'univers super-héros, comics et films d'action en général, donc j'avais du mal. D'ailleurs, je vais jamais volontairement regarder un film d'action. Sauf si on m'en a dit vraiment beaucoup de bien, mais je veux dire, je suis pas du genre à me réjouir du prochain Mission Impossible, par exemple. Donc là, ben voilà, je suis contente qu'il soit terminé, je suis contente d'avoir fait le challenge, en fait. Même si j'ai pas plus apprécié que ça les films, je suis contente de l'avoir fait pour dire, ben, l'univers MCU, je sais ce que c'est, et je sais que c'est pas mon truc, en fait. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment... Ce que je retiendrai, c'est que les films sont longs, très longs, qu'il y a énormément d'action, que c'est pas facile de suivre qui est qui et qui peut faire quoi, qui a quel pouvoir, etc. Enfin, je veux dire, dans Endgame, ils utilisent des techniques auxquelles on n'aurait jamais pensé. Enfin, c'est de la science-fiction, c'est normal, hein. Mais je veux dire, ils utilisent des techniques compliquées pour faire des choses, pour atteindre leur but. Et enfin voilà, moi j'aurais. Je trouve que c'est pas un univers auquel il est facile de. Dans lequel il est facile de rentrer et de comprendre, en fait. Au-delà des univers comme Harry Potter, bah, on t'explique assez facilement dès le début, puisque Harry Potter arrive en ne sachant rien. Donc le spectateur qui ne sait rien non plus apprend en même temps que le personnage, donc c'est facile. Ici, dans Avengers, c'est un peu. J'ai l'impression que on doit mieux comprendre si on a lu des comics avant, enfin voilà, si on est familier avec l'univers, je sais pas pourquoi. Après, moi, je suis pas une fan de BD à la base, ni de comics, donc. Je suis arrivée en sachant rien. Je connaissais que Spider-Man. Et encore, je savais juste que c'était l'homme araignée et qu'il sortait des toiles d'araignée de ses mains. C'est tout ce que je savais. Vous imaginez? Donc j'arrive avec tous les autres super-héros de l'MCU, je connaissais absolument personne. Hulk, je connaissais de nom parce que j'avais vu passer le dessin animé, mais je ne savais pas du tout qui faisait partie de Marvel, des comics en question. Enfin voilà, je sais pas trop comment parler de cet univers alors que j'y connais rien en fait. Donc tous ceux qui sont spécialistes là-dedans et que vous écoutez mon podcast, soyez indulgents s'il vous plaît parce que je connais pas grand-chose. Mais voilà, j'ai fait le challenge avec des yeux totalement objectifs, avec une envie d'apprendre, de connaître, mais je le referai sûrement pas et je vais pas regarder les prochains films qui sortiront ou alors si vraiment il y a un acteur que j'aime ou quoi d'autre que j'ai envie de voir, mais sinon je pense pas que je vais retourner vers cet univers-là. Franchement, c'était une question que je me posais beaucoup parce que je me disais, mais il y a tout le temps des films qui sortent en fait. J'en voyais régulièrement et je voyais beaucoup de mes amis aller le voir et je me disais, mais qu'est-ce que ça a de spécial quoi. Donc je me réjouissais de finir le challenge pour me dire, est-ce que je vais accrocher? Est-ce que moi aussi je vais finir par être une fan et attendre le prochain Avengers, le prochain film de super-héros avec impatience? Et la réponse est non. Voilà, on est fixé. Mais c'est pas grave, c'est une bonne expérience, mais ça confirme que c'est pas du tout mon thème de prédilection. Voilà. Alors, pour continuer après ça, j'ai regardé un documentaire sur Britney Spears qui s'appelle Framing Britney Spears. Alors, je l'ai regardé au moment où je pense il y avait tout un scandale ou autre autour d'elle parce que elle était. Bah, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, Britney Spears est sous tutelle de son père. C'est-à-dire que son père prend toutes les décisions pour elle. C'est dingue parce que c'est quand même une adulte, mais bon, apparemment, elle a été jugée irresponsable de prendre soin d'elle-même. Et du coup, bah, elle a demandé à retirer cette tutelle-là, je pense en 2021 ou 2022. Et du coup, bah, il y a eu un jugement, etc. Et je pense que soit ce documentaire-là, soit un autre que j'ai regardé, mais beaucoup plus tard, est sorti à ce moment-là, qui a expliqué tout ça. Enfin, dans celui-ci, on explique sa carrière, principalement. Comment elle est devenue célèbre, les scandales qui l'entourent, etc. Et puis ensuite est venu un autre documentaire où là on explique toute la mise en tutelle, comment ça se fait qu'elle se soit retrouvée là-dedans. Et celui-là, ce documentaire-là, c'est Britney versus Spears, je crois. Donc Britney contre Spears, donc contre son père en fait. Enfin bref, on en parlera plus tard de celui-là. Celui-ci, je l'ai regardé juste parce que j'avais envie de savoir un peu plus sur elle, parce que je ne savais absolument pas de ce qui se passait avec son père. Et du coup, bah, je suis fait ma curieuse, j'ai regardé. Et j'ai bien compris pourquoi je ne savais rien en fait, parce que sa vie, c'est beaucoup, beaucoup de drama, comme beaucoup, toutes les stars d'Hollywood quasiment. Et moi, le drama, ça m'intéresse pas tant que ça en fait. Et Britney Spears ne m'a jamais vraiment plus intéressée que ça. J'aime bien certaines de ses chansons, mais de là à dire que je suis une fan, non. Après, j'ai rien contre elle. Mais voilà, le drama, ça m'intéresse pas, donc... Si ça vous intéresse, c'est forcément un documentaire qui pourrait vous aider à du coup comprendre, parce qu'il relate vraiment tous ses débuts, en fait, comment elle a démarré. Et moi, j'ai jamais su, parce que... Je pense qu'elle est devenue célèbre dans les années 90, et moi, j'étais même pas née, donc... Voilà, ça en dit long. Mais voilà, si vous êtes fan de Britney Spears, vous l'avez sûrement déjà vu, mais... Que dire de plus à part que c'est un peu comme une biographie en fait. Même si on s'attarde quand même beaucoup à pourquoi est-ce que les paparazzi s'attardent beaucoup sur elle, etc. Voilà, d'où le titre Framing Britney Spears. Framing en anglais, c'est vraiment dire elle est prise pour cible, quoi. Bon, après ça, j'enchaîne encore un nouveau documentaire, et là c'est un documentaire d'Arte qui n'existe pas en anglais, je crois, qui s'appelle Pyongyang s'amuse. Donc, comme vous pouvez le comprendre, ce documentaire sur la Corée du Nord, sur la ville de Pyongyang, et en fait tout simplement sur ses habitants, comment les Nord-Coréens vivent et s'amusent. Parce que tout ce qu'on sait, nous, sur la Corée du Nord, c'est que c'est une dictature, que c'est un pays. C'est pire qu'une dictature, c'est un pays où on n'est pas libre, où personne ne peut rentrer, où personne ne peut faire ce qu'il veut, où les gens sont vraiment. En fait, on sait rien, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y fait horrible d'y vivre, quoi, en fait. Parce que, clairement, comme certains disaient, quand vous cherchez ce documentaire-là sur Internet, on vous dit clairement, oh, ça fait des images en plus à la collection de la Corée du Nord. Parce qu'en fait, on n'a quasiment pas d'images de la Corée du Nord. Rien ne sort de ce pays. Il n'y a aucune donnée, aucune photo, aucune photo d'actualité, rien. Donc voilà, ce documentaire-là a été tourné sur 8 ans, je crois. Donc vous imaginez. Hein. Et en fait, on montre le quotidien des Nord-Coréens, comment ils vivent, comment ils s'amusent, en fait, tout simplement. Et c'est là que tu te prends une claque en disant, oh, bah, en fait, ils n'ont pas l'air d'être en souffrance. Parce que quand on te dit dictature nord-coréenne, tu te dis... Des gens qui vivent dans la peur tout le temps, qui vivent dans la misère, qui vivent dans la pauvreté et que leur dirigeant, lui, vit dans le luxe. C'est sûrement le cas. Je veux dire, quand on regarde Pyongyang, la ville dans le documentaire, c'est pas une des villes les plus délabrées au monde, hein, croyez-moi. Donc, ouais, je me suis vraiment pris une claque à ce niveau-là. Parce que, ouais, comment dire, c'est pas, allez, c'est pas ce à quoi, c'est pas ce qu'on nous raconte, en fait. Donc c'est bien d'avoir un peu des images comme ça, différentes, un narratif différent de ce qu'on nous montre. Et donc rien que pour ça, moi ça m'intriguait, parce qu'on sait rien à la Corée du Nord. Donc c'est pour ça que j'ai regardé, je suis toujours intriguée des choses où on ne sait rien, des choses qui sont mystérieuses. Et si pareil, ça vous intrigue, franchement, bon documentaire à voir. Je pense pas qu'il existe en anglais, parce que le titre est en français, je pense qu'il a été réalisé par des Français. Mais il y a sûrement moyen d'avoir des sous-titres, comme Arte est très souvent en sous-description, bah, il y a sûrement moyen de trouver. Mais franchement, c'est super intéressant. Bon, ensuite, on enchaîne avec on passe du coq à l'âne. J'ai regardé Nuit Blanche à Seattle. Je ne savais pas que c'était un film culte. Excusez-moi, maintenant, peut-être que vous ne le savez pas non plus. Mais apparemment, c'est un film très culte, très un peu cucu-nunuche hein, pour certains, que les gens rangent à la catégorie de films tels que. Voilà, on le met avec les films comme Quand Harry rencontre Sally, Vous avez un message, je sais pas moi, Nos nuits à Rodin, tout ce genre de choses. Les films sentimentaux, un peu. Ouais, un peu cucu en fait, qui. Un homme tombe amoureux d'une femme, etc. Enfin, un peu à la téléfilm de TF1 de Noël, là, vous voyez. Mais en vrai, c'est pas vraiment ça. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, ça a l'air marrant, je sais pas ce que ça peut bien être. Et c'est assez. Bah, je trouve que l'histoire change en fait. J'ai pas vu le lien, enfin, j'ai pas vu la ressemblance entre des films comme. Quand Harry rencontre Sally, ou Vous avez un message, ou Coup de foudre à Notting, ou Coup de foudre à Central Park, je sais où. J'ai pas vraiment vu la ressemblance, même si c'est un film romantique, donc il y a une histoire d'amour, etc. Mais Je sais pas. Pour moi, il n'est pas trop cliché. Je me suis pas dit, oh ouais, c'est bon, encore un cliché. Et encore. Enfin, c'était pas. Je pouvais pas prédire ce qui allait se passer, vous voyez? Donc, quand moi, j'arrive à prédire ce qui se passe, je me dis, ok, c'est bon, laisse tomber. Ils ont pas été poussés fort sur dans leur imagination, là, les auteurs. C'est pas. Il peut mieux faire. Moi, j'aime être surprise. Donc, si tu me surprends pas, ton film n'est pas bon. Là, c'était pas le cas, parce que j'ai vraiment rêvé en mode, qu'est-ce que ça peut bien être? J'étais curieuse, j'avais pas regardé de résumé ni rien. Donc ouais, j'étais surprise par le film en fait. Agréablement surprise et pas l'inverse pour une fois, parce que soit comment dire, romantique comme ça. Je sais pas si on l'appelle comédie celle-ci, c'est pas un drame ou pas. Bref, film romantique tout simplement. J'aurais pas. D'habitude, c'est pas ce que je regarde et d'habitude, c'est. Enfin, je regarde si quand j'ai vraiment. Pas envie de trucs trop compliqués, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, quand j'ai pas envie d'être surprise en fait, parce que je sais très bien qu'il n'y a pas grand-chose de surprenant dans ces films-là. Mais celui-ci m'a agréablement surprise. Pour faire courte, l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui raconte son histoire et à quel point il n'arrive pas à faire le deuil de sa femme à la radio. Il se trouve à Seattle et une femme l'entend. Mais elle est à Baltimore. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais Seattle, c'est genre côte ouest des États-Unis. Baltimore, c'est côte est. Complètement l'opposé du pays, quoi. Donc voilà. Et elle essaie de rentrer en contact avec lui, du coup. Et c'est tout. Ça va super vite pour faire les résumés des comédies romantiques. Donc, c'est un des avantages. Par contre, un cliché, si ce n'est que l'histoire soit basique comme ça, mais le cliché, c'est que le casting, en fait. Vous retrouvez Meg Ryan et Tom Hanks. Oui. Vous les avez pas déjà vus quelque part ensemble? Parce que moi, oui. Et le plus drôle, c'est que quand j'ai vu, du coup, ce film-ci, je me suis dit, encore eux deux? Encore ensemble? C'est déjà pas ensemble dont vous avez un message? Et en fait, Vous avez un message est sorti 5 ans après ce film-ci. Donc, c'est plutôt en regardant Vous avez un message que les gens ont dû se dire, oh, encore eux, on les aimait bien ensemble. Sauf que ce sont plus du tout les mêmes. Et c'est pas du tout le même contexte. Et ils sont pas du tout potes dans Vous avez un message. Mais bon, c'est là que tu te dis, punaise, à l'époque, ils prenaient quand même un peu toujours les mêmes ensemble. Parce que Meg Ryan, aujourd'hui, vous la voyez dans quoi? Ou toi, Tom Hanks, je pense qu'on le voit encore énormément dans beaucoup de choses. Il a bien vieilli, ce gars-là. Mais Meg Ryan, personnellement, je vois. Ou alors, elle a tellement vieilli que je la reconnais plus, mais je ne la vois plus dans beaucoup de films. Ou alors, c'est moi qui ne suis pas grand-chose de l'actualité. Autant pour moi. Bon, ensuite, continuons sur tout à fait autre chose, encore une fois. J'ai regardé Deadpool 2. Rien à voir. Film de super-héros. Super-héros de bras cassés, parce que Deadpool, il n'est pas très super-héros. Je pensais que Deadpool était aussi faisait partie de l'univers MCU, donc des Avengers, etc. En fait, pas du tout. Il fait partie de rien, je crois. Je sais pas de. Je m'y connais pas assez dans ce monde-là pour savoir, mais c'est un super-héros en tout cas. Super-héros, mais bon. Comme je disais en carton, parce que il fait plus de gags qu'autre chose, et il est assez vulgaire. Mais bon, voilà. C'est ça qui fait un peu son charme, parce que c'est un peu, justement, plus une comédie qu'un film d'action. Donc, c'est un film. J'avais déjà vu Deadpool 2 il y a quelques années, au moment où Céline on avait fait la bande originale du film. Mais je l'ai revu pour voir, parce que je m'en rappelle plus du coup ça parlait. Bah franchement, c'est le genre de film qui m'a moins. Enfin, ça m'a franchement moins ennuyé que les Avengers par exemple. C'est pour dire. Mais ça reste quand même. Enfin, moi j'étais un peu choquée parce que je me dis, je m'attendais vraiment à un film de super-héros. En fait, franchement, Deadpool 2, c'est plus un gag qu'autre chose, quoi. Désolé pour les fans de Deadpool, mais. Bah voilà, pour moi, c'est vraiment le cas. On va continuer dans le même thème pour une fois. J'ai regardé Nous sommes les Millers, We Are the Millers. Je suis dans le même thème parce que ceci est vraiment une comédie. Alors, l'histoire est simple, ici, comme dans toutes les comédies. Vous avez un gars qui vend de la drogue. Sauf qu'il a une dette envers son dealer. Et son dealer lui dit, enfin, ou son big boss, je sais pas comment on appelle ça dans le milieu de la mafia, là, ou de la drogue. Mais bon, bref, son vendeur Il lui doit de l'argent et il lui dit, bah écoute, pour remplir ta dette, tu vas me livrer une cargaison au Mexique. Sauf que la cargaison, c'est pas juste le coffre d'une Fiat Punto, ouais. C'est le bon gros camion, quoi. Semi-remorque. Et le gars, il dit, bon, comment je vais faire passer ça au Mexique, moi, tranquillement, sans attirer attention? Et ben, il s'est dit, tiens, je vais faire genre que je suis en vacances avec ma famille. Parce qu'il n'a pas de famille, le gars. Donc, il s'invente une famille. Il crée une fausse famille. Il demande à sa voisine d'être sa femme. Il demande à un autre voisin, plus loin, au gamin totalement isolé, d'être son fils. Et une jeune fille un peu rebelle, fugueuse, là, d'être sa fausse fille. Et ils partent ensemble et ils essayent de se faire passer pour une famille. Sauf que, évidemment, bah, ils passent pour une famille en vacances. Donc, ils tombent sur d'autres gens, etc. Et qui essaient de tisser des liens avec eux. Et eux sont là en mode on est une famille, mais on ne se connaît pas du tout, en fait. Et c'est là qu'il y a tout le temps des petites incohérences qui surviennent, et des gags, etc. Donc voilà l'histoire. A priori, on se dirait bien, oh là, ça a tout pour foirer votre plan. Mais c'est ça qui est drôle en fait. Moi au début, je pensais que c'était vraiment être un film sérieux, et en fait, pas du tout. En fait, j'ai confondu ce film avec le film Où sont passés les Morganes. Bon, bref, ça n'a rien à voir. Mais pareil, ici, un film pas trop trop compliqué à comprendre, pas trop, faut pas trop réfléchir, faut pas trop s'attendre aux meilleures blagues du monde. Mais ça se laisse regarder, en fait, tout simplement. Donc, si vous voulez un truc assez léger pour conclure la semaine comme je l'ai fait, c'est un film parfait pour vous. Et du coup, c'est sur cette note-là qu'on va terminer cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, mon petit débriefing. On a fini le challenge Marvel, comme je l'ai dit. Donc, semaine prochaine, on parle pas du tout de Marvel. J'essaye de varier un peu les genres que je regarde. Maintenant, vous allez vite voir quels sont mes thèmes de prédilection. Vous l'avez peut-être déjà compris, j'aime. Enfin, en tout cas, au début du challenge, j'aimais beaucoup les documentaires. Maintenant, un peu moins, je regarde un peu moins. Je suis plus à me tourner vers des classiques ou des vieux classiques. Mais j'ai un peu comme une envie aussi de regarder des films plus récents qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai l'impression que ces derniers mois, ou voire ces dernières années, il n'y a pas grand-chose de beau et de bon qui sortait au cinéma. Donc je me tournais vers des anciens films, dont j'allais dire le titre en anglais, mais dont Nuit Blanche à Seattle. Je me suis dit, je vais regarder un classique qui a été célèbre à une époque pour voir pourquoi il était célèbre en fait. Donc c'est pour ça que je me tournais un peu plus vers des classiques. Maintenant, je vais essayer de me tourner de plus en plus vers des films récents pour voir un peu ce qui s'est fait de ces dernières années. Et si vous avez des suggestions, d'après mes goûts, si vous avez commencé déjà un peu après 13 semaines à cerner mes goûts, je suis ouverte parce qu'il faut quand même rappeler les 52 semaines. Et oui, on les fera les 52 semaines, ne vous inquiétez pas. Ben voilà. D'ailleurs, si vous voulez que je poste plus souvent pour que le challenge avance plus vite, je peux le faire aussi. Parce que si je le fais une fois par semaine, mais peut-être que vous aimeriez être deux fois par semaine. Parce qu'au final, on compte qu'une semaine par semaine, donc à ce niveau-là, qu'une semaine par semaine, j'allais dire par mois, non, qu'une semaine par semaine. Donc on sera vite à un an de challenge. Je sais que je suis pas très très régulière, je me reprends là pour l'instant, mais donc si vous voulez que ça avance un peu plus vite, je peux aussi poster deux fois par semaine, si ça peut vous faire plaisir. Et comme ça, on peut se passer à d'autres épisodes, peut-être d'autres thèmes aussi. J'avais envie de discuter un peu séries, et notamment revoir certaines séries. Ici en été, j'ai l'envie de regarder certaines séries en particulier. J'aimerais bien vous parler aussi d'une série que j'ai terminée il n'y a pas longtemps, que j'ai adorée. Enfin non, qui s'est terminée il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas terminée parce que je sais que la fin va me zapper le moral, donc je n'ose pas la terminer, mais il faut vraiment que je vous en parle. Donc voilà, dites-moi votre avis, si vous me dites rien, je fais comme ça me chante, ok? Et voilà, j'espère que ça vous a plu quand même, et on se retrouve la semaine prochaine. Restez à l'écoute, merci pour votre écoute, et à la semaine prochaine, bye bye!